9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, RMC Story, la télé sur le canal 23 de la TNT. Nous sommes avec Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. C'est Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui nous accompagne aujourd'hui. Puis Charles Consigny, avocat. Et le troisième de la bande, il complète le trio. On va accueillir notre invité, il s'appelle Eric Nolot.
RMC, l'invité des grandes gueules.
Ouais, on a demandé à Eric de venir parce qu'il lui a une petite mésaventure.
Eric Nolot, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous deviez siéger à la table des jurys du Festival du film romantique de Cabourg qui se tient du 14 au 18 juin prochain. Et vous avez été évincé au dernier moment par le festival. Quel crime avez-vous commis ?
Alors, j'ai été dans la novlangue, j'ai été cancel, j'ai été annulé. Eh bien, figurez-vous que jeudi matin est paru le nouveau numéro de Valeurs Actuelles, dans lequel je donnais une interview, dans laquelle je faisais même la couverture. Et le jeudi à 17h, je recevais un coup de téléphone du festival pour me dire que ce n'était pas compatible avec le fait d'être juré au Festival du film romantique de Cabourg. Alors, je suis partagé entre deux choses. D'abord, c'est un peu déplaisant d'être annulé, mais en même temps, je pouvais pas rêver meilleure illustration de ce que je raconte dans mon livre La faute à Rousseau. Je montre l'emprise du wokisme sur la culture. C'est une entreprise totalitaire, en fait. Il faut éliminer, écarter tous les déviants politiques. Mais la liste est longue. Hein. On est déviants politiques à partir d'un niveau extrêmement faible. Et puis, c'est une conception de la culture qui doit être soumise à une idéologie. Bah, écoutez, CQFD, ce que j'exposais en théorie, je l'ai subi en pratique.
Qu'est-ce qu'on vous a donné comme argument, en fait ?
On m'a dit que, en réalité, je ne pouvais pas m'exprimer dans ce journal, que c'était pas possible de s'exprimer dans Valeurs Actuelles. C'est un peu bizarre parce que Valeurs Actuelles, par exemple, quand je le lis, moi, je suis abonné à des tas de journaux, dont Valeurs Actuelles, je trouve, par exemple, que ce n'est pas très très différent du Figaro Magazine, par exemple. Et j'ai demandé à cette dame, la responsable du festival, j'ai dit mais Monsieur Macron a fait la couverture et a donné une interview. Est-ce qu'il pourrait être juré dans votre festival ? La réponse a été un peu embarrassée.
Enfin, en fait, faire la une d'un journal aujourd'hui en France, ça peut valoir censure derrière.
Mais c'est le début, hein, c'est le début du wokisme dans les actes. Pour l'instant, le wokisme est dans une période, je vais utiliser un terme un peu pompeux, gramscienne. C'est-à-dire, on essaie de s'imposer dans le champ des idées. Mais il faut pas se leurrer. Du champ des idées, on passera au champ pratique. Vous aurez de plus en plus de personnes qui seront écartées parce qu'elles ne pensent pas bien, parce qu'elles parlent au mauvais journal.
On l'a vu ça à l'université, où des chercheurs qui sont pas dans la doxa, on va dire, sont écartés, ne peuvent pas tenir des conférences.
Mais ça veut dire que le Festival du film de Cabourg fait de la politique, alors, où le jury fait de la politique.
Ben oui, moi je... En plus,
Normalement, un jury, c'est apolitique.
C'est un film romantique, en plus.
Romantique, c'est pas très romantique, l'annulation, normalement. Et puis c'est un peu curieux, parce qu'on met d'un côté une interview que j'ai donnée à un journal, et puis de l'autre, tout ce que j'ai fait par ailleurs ne compte pas. J'ai animé pendant 10 ans une émission culturelle où il était beaucoup question de cinéma, tout le monde sait, enfin dans ce milieu-là, que c'est ma passion, mais tout ça ne compte pas. Valeurs Actuelles, c'est le diable.
Ouais, mais la faute à Rousseau, parce que Sandrine Rousseau, c'est peut-être une amie du festival, non ? C'est peut-être ça aussi qu'on fait payer, non ?
Écoutez,
il y avait quelqu'un ?
Peut-être, non, mais peut-être qu'il y aura d'autres développements, qu'on saura ce qui se cache derrière ça. En tout cas,
vous en prenez une certaine gauche. C'est peut-être cette gauche-là qui vous répond en quelque sorte.
Ah, mais de toute façon, vous savez.
Qui fait partie de ce jury par ailleurs ?
Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. La liste n'a pas été
elle
donnée.
Elle est mouvante. Il y aura Alice Coffin, Sandrine Rousseau.
Ah, mais je veux voir le film qu'elle distinguerait dans ce cas-là. Non, mais
il est mieux faire l'interview à l'Humanité
Adèle
dimanche.
Adèle Van Redt, qui est à la tête d'une radio apolitique.
Je le ferai la prochaine fois. Non, mais ce qui est très curieux.
Avec
du Plenel, ce serait formidable. Non, mais ce qui est très étrange, c'est que depuis l'éviction, il y a beaucoup de gens, essentiellement à gauche, de cette autre gauche mélenchoniste, rousseauiste, wokiste, islamo-gauchiste, qui soutiennent en fait la décision du festival en disant c'est normal, puisque Nolot est d'extrême droite. Alors je demande, mais
qu'est-ce qui justifie
cette étiquette d'extrême droite?
Parce que j'ai entendu dans la bouche d'Émeric Caron, député NUPES, qui est interrogé à votre sujet, qui dit oui, mais Nolot, il est passé de la gauche molle, à mon avis ça doit être ça, à l'extrême droite. Il a changé. Vous avez changé, Eric?
Moi, à chaque fois que j'entends ça, je pose toujours la même question. Citez-moi un acte ou un propos, un, pas deux, qui me rattacherait à l'extrême droite. je pose la même question à M. Émeric Caron, qui est pour moi un phare.
Je vais dire, mais votre
quand même, les meetings
Zemmour.
De Zemmour.
Si j'étais monté à la tribune.
Tu étais quand même au premier rang du meeting d'Éric Zemmour. Voilà. C'est pas exactement une démarche d'extrême gauche.
Vous savez, Maître Consigny, j'étais très angoissé en venant ici. J'ai cru qu'on ne me parlerait pas de Zemmour. Heureusement, là, ça va beaucoup mieux.
Mais tu poses la question.
Je suis allé assister au meeting d'un ami. C'est pas tous les jours qu'un ami est candidat à la présidentielle. Si j'avais été un soutien de Zemmour, croyez-moi, je serais monté à la tribune. Je l'ai dit, je suis resté sagement à ma place.
Mais why not? Mais
l'extrême droite, à mon avis, n'est ni sexuellement transmissible, ni par le regard ou la simple présence. Je ne sais pas si vous avez été voté vous-même, mais vous voyez dans les bureaux de vote, il y a une petite pièce. Vous avez pas remarqué, qui est fermée par des rideaux.
Ça ne nous empêche pas de dire pour qui vous votez.
Et le vote, le vote est secret. Il doit bien y avoir une raison.
Oui, mais ça n'empêche pas.
Ça restera secret,
mais on peut le dévoiler. Ça n'est pas empêché.
Absolument, mais moi je reste sur l'isoloir.
Qu'est-ce que vous pensez de ce qui arrive à Éric, alors, Kauter et Christophe?
Moi, ce que j'en pense beaucoup de choses et rien à la fois. C'est-à-dire que je ne tolère pas qu'on vous interdise d'un festival, de la même manière que je ne tolère pas qu'on interdise Tariq Ramadan d'un festival aussi, parce qu'il a été blanchi. Je ne suis pas un soutien de Ramadan. Je
la pense justice a cassé la demande de Christophe Esposito. Il a pu faire son déjeuner littéraire.
Mais si tu veux, c'est pas normal que ce soit d'interdire M. Nolo ou d'interdire M. Ramadan. On est dans un pays post-Charlie où tout le monde est en capacité devrait être en capacité de s'exprimer. Et quand on voit que des personnes ont été condamnées, je peux citer M. Sarkozy, je peux citer M. Zemmour, qui a été condamné et qui continue d'avoir des tribunes et de parler, je ne vois pas pourquoi personnages publics comme vous ou comme M. Ramadan, parce qu'il est encore présumé innocent en France, devraient être interdits d'un festival ou d'une prise de parole publique, quelle qu'elle soit. Donc quand on applique une règle, moi je suis attachée à ce que la règle soit la même pour tous, donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire, tout simplement.
Christophe?
Moi je suis un petit peu consterné, parce que je pense que c'est bien que tout le monde puisse s'exprimer, et puis voilà, je resterai là. Autrement, je pense qu'on aurait quand même pu, les gens du festival auraient quand même pu s'adresser à Nolo pour lui dire ce qu'il lui reprochait, au lieu que d'envoyer un mail ou un texto qui avait vraiment leur dire qu'il ne va pas participer. Il y a un débat, quoi. Je ne sais pas, quand on est un jury...
Il n'y a pas à interdire, quoi.
Vous savez, il va y avoir une lutte très sévère, une lutte à mort qui va s'engager entre la culture et le wokisme. Le wokisme...
Faut expliquer ce que c'est que le wokisme.
Le wokisme, c'est le fait d'être éveillé, ça vient évidemment des États-Unis, comme beaucoup de fléaux qui nous atteignent avec un petit décalage en France, comme beaucoup de bonnes choses aussi, mais enfin, on se précipite beaucoup sur les mauvaises choses des États-Unis, et ça consiste à être très très sensible aux inégalités, il faut les corriger, il faut être très sensible au malheur du monde, mais évidemment, tout cela, comme tous les totalitarismes, ça part d'une bonne intention et ça se termine en tyrannie. Et là, c'est la tyrannie, puisque le wokisme veut la fin de la culture en tant que telle, veut une culture qui soit assujettie à une idéologie, c'est-à-dire une culture édifiante, une culture qui illustre des grands principes, si vous voulez, un art officiel. Mais on l'a connu dans tous les ismes. Le nazisme avait un art officiel, le stalinisme avait un art officiel, le maoïsme avait un art officiel, et le wokisme veut un art officiel. C'est une vieille histoire.
Ils veulent plutôt un rééquilibrage.
Voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec
vous. On peut lire les tribunes de ceux qui disent non. Pendant un temps, on a mis une chape de plomb sur des minorités, sur des arts, sur des cultures. Et aujourd'hui, c'est un rééquilibrage.
Oui, elles ont le droit de parler, elles ont le droit de s'exprimer autant que vous, autant qu'un tel.
Non,
j'ai pas dit à la place. Il faudrait que tout le monde ait le même temps de parole dans ce pays. Et je refuse l'espèce de paternalisme qui t'autoriserait à parler, à dire les choses qu'il faudrait dire. Et quand tu ne conviens pas, on t'enferme dans une espèce de wokisme, je sais pas trop quoi, parce que ce que tu dis ne me convient pas.
Kauter.
Et en fait, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, en fait.
C'est ça le propre de la France.
Et c'est vrai que j'ai dans ce pays aussi que je l'ai pas quitté.
Tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce d'obligation dans le monde culturel. C'est pas que je le vis comme ça. Écoute, j'ai été chroniqueur dans une vénérable émission dans laquelle Éric a été chroniqueur aussi, On n'est pas couché, où on avait toute la production culturelle sur une année de la France. J'ai constaté à quel point l'art, entre guillemets, est aujourd'hui extrêmement idéologisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le cinéma par exemple, si tu veux avoir des financements pour un film, il faut que ton film porte sur une question qui
fait partie du wokisme, c'est en quelque sorte. C'est-à-dire, si ton film ne parle pas soit d'une personne LGBT qui survit à je ne sais quoi, soit d'une personne racisée qui subit une discrimination, s'il n'est pas sur ce thème-là, tu peux être sûr que tu n'auras pas ton financement, tu n'auras pas ton interview.
Ce sont des faits, madame.
Tu n'auras pas ton interview sur France Inter. Regarde, c'est permanent. Regarde, souffre un peu quand même que les autres parlent.
Je t'écoute. Regarde
la une, par exemple, du Monde Magazine, rien que de ce week-end. C'est un acteur transsexuel, etc. Non, bon, très bien. Sauf que c'est comme ça maintenant, absolument partout, absolument tout le temps. Et si tu ne rentres pas dans ces cases-là, non seulement tu es cancellé a posteriori ce qui arrive là à Eric Nolot, mais sinon, tout simplement, tu n'arrives pas à faire aboutir ton projet parce que ton projet n'est pas conforme à l'idéologie de l'époque.
Mon cher Charles,
et ça, il faut accepter de le voir.
Sauf que ceux qui n'ont pas eu la parole et l'espace pour donner la parole aux minorités, aujourd'hui, souffre que cet art qui ne te corresponde pas et qui a été longtemps banni et mis sous couvert puisse s'exprimer
mais
aujourd'hui.
Mais c'est pas vrai qu'il a été banni et mis sous couvert.
J'ai pas dit que c'était toi qui l'avais mis. Mais je suis désolée, il n'y avait pas autant de racisés qui avaient la parole. Je déteste ce mot, tu vois.
Madame, est-ce que
je déteste le wokisme. Je déteste qu'on me dise que je suis une racisée. Je déteste tout ça, en fait. Qu'on me mette dans une case, ça me met en colère comme c'est pas permis.
Mais pourtant, il n'y a que on va te dire que tu es racisée et minorité exprimante.
Mais j'ai le droit de dire que je déteste ça parce que je ne me considère ni comme une racisée, ni comme une minorité, ni comme une minorité tout court.
Vous êtes en train de nous expliquer qu'après la tyrannie de la majorité, c'est bien d'avoir une tyrannie des minorités. Moi, je suis contre les tyrannies.
Je dis qu'ils ont le droit de parler.
Oui, absolument. Mais on est en train de verser dans la tyrannie des minorités. Ensuite, il y a un continuum entre ce qui se passe dans le domaine de la culture et ce qui se passe de manière beaucoup plus tragique dans le domaine de l'idéologie. Dans la France de 2023, M. Jean-Marc Rouillant, ancien tueur d'Action Directe, peut faire une conférence tranquillement à l'université de Bordeaux. Madame Bergeau-Blaclair, qui travaille sur l'islam politique, sur le frérisme, est empêchée de le faire à la Sorbonne et maintenant se trouve placée sous protection policière. Il y a un continuum entre tout ça. Il y a une tyrannie idéologique.
Et nous avons M. Zemmour qui a été condamné pour incitation à la haine, qui est candidat à la présidentielle. Nous avons tout ça.
Mais alors, il n'a pas été condamné pour inéligibilité.
Il donne les raisons des condamnations. Donc moi, je te dis qu'il y a des gens qui sont condamnés qui se présentent à la présidence aujourd'hui.
Je voudrais revenir sur le livre concernant Sandrine Rousseau. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que finalement, Sandrine Rousseau, politiquement, elle a été battue à la primaire de son parti. Je regardais les sondages de popularité. Elle est très loin derrière les autres. Je pense que beaucoup de gens ne savent pas qui est Sandrine Rousseau. Elle est députée, mais elle vient d'apparaître dans le paysage politique. Pourquoi autant d'espace finalement donné à Sandrine Rousseau et peut-être même vous y participez alors que finalement dans le pays profond, si on reprend cette expression, elle ne représente pas grand-chose.
Oui, mais tout ne se joue pas dans le pays profond. C'est la record woman des invitations dans les médias.
C'est la bonne cliente.
Et la bonne cliente parce qu'on espère qu'elle va sortir ou une bourde ou une punchline. C'est un peu difficile de distinguer entre les deux d'ailleurs dans le cas de Sandrine Rousseau. Et en échange, il y aura un buzz dont bénéficiera aussi le média. Mais je vous dis que ça ne se joue pas que dans la France profonde parce qu'il y a un travail d'imprégnation du milieu médiatico-intellectuel qui, lui, est beaucoup plus sensible à ces thèses. Et c'est ce que dit Charles Consigny. On a un peu l'impression que maintenant, c'est un concours Lépine pour pouvoir parler de sujets extrêmement minoritaires mais qui saturent l'espace médiatique. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Pourquoi la gauche s'enferme là-dessus ? La gauche qui a perdu le vote des ouvriers de la classe moyenne, qui s'est reportée soit dans l'abstention, soit chez Marine Le Pen, et beaucoup sur ces sujets-là sociétaux. Visiblement, ça ne fonctionne plus parce que les gens ne votent plus pour eux. Pourquoi s'enferment-ils ? Parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont quand même réussir à conquérir une partie de peut-être l'électorat parisien ou autre.
Ils ont changé de cheval au milieu du gué. Avant, le cheval, c'était le prolétaire. Maintenant, c'est le trans. Le transsexuel est devenu une sorte d'icône de la gauche et de l'extrême gauche. Moi, je suis absolument pas. Oui, c'est un peu ça. Mais moi, je suis absolument pas transphobe et tout. Simplement, c'est une réalité totalement marginale et qui est placée au centre des préoccupations. Je ne comprends pas. Donc, l'abandon du social au profit du sociétal. D'ailleurs, c'est pas d'hier. Hein, c'est d'avant-hier. Mais là, on en perçoit les effets les plus dévastateurs.
Les élections, d'ailleurs.
Bien sûr, parce que il y a ce qu'on appelle la commande decency du peuple, qui dit en fait, notre souci, c'est pas les trans, quoi, en fait. Ils ont rien contre les trans, je pense. Vous pouvez faire des sondages. Simplement, c'est pas la priorité de la France de 2023. Je regrette.
Mais c'est simplement une mise en lumière de gens qui disent voilà, on veut juste exister. Donc le fait de parler nous de temps en temps, nous mettre un peu au devant de la scène, ça nous permet de nous banaliser, de nous mettre aussi au même rang dans la société. Alors qu'avant, oui. on était des marginaux, on était mis de côté.
Ça, je l'entends.
On était montré du doigt.
Je l'entends très bien. Mais dès que vous commencez à discuter, par exemple, le changement de sexe, c'est quand même quelque chose de très lourd. Dès que vous commencez à discuter, mais pas de manière agressif, simplement de questionner un peu ce phénomène, vous êtes traité de transphobe, de fasciste. Alors maintenant, fasciste, c'est un peu usé, maintenant c'est carrément néo-nazi. Comme si c'était ouais. une nouvelle religion, un nouveau culte qui avait ses oui, prêtres, mais... qui avait ses...
Bon, on l'a d'accord, vu avec les lectures de drag queen faites dans cette école maternelle.
Écoutez, quoi, c'est ouais. pas possible. Entre
Alors, qu'est-ce qui n'est pas possible?
Mais de faire des lectures de drag queen dans des écoles maternelles, ce n'est pas le lieu. Nous sommes une éducation nationale qui n'arrive pas à transmettre les savoirs fondamentaux. Nous sommes au fond du trou dans les classements internationaux. Tous les jours, nous sommes de mieux en mieux renseignés sur le désastre de l'éducation nationale et on vient nous dire qu'il faut faire des lectures de drag queen.
En même temps, il y avait une étude très intéressante parue ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vue, dans 30 pays sondés par Ipsos sur justement l'identification au LGBT+. Ben on apprend notamment concernant la France qu'un jeune sur cinq de la génération Z, hein, de ces jeunes, s'identifie comme LGBT. Donc on voit bien que ça questionne cette nouvelle génération.
Mais il faut en tenir compte. Simplement, est-ce de que, pas alors, faire l'alpha et l'oméga
de vous
n'avez
pas, finalement, vous êtes le boomer, un peu déconnecté de cette nouvelle génération pour qui, effectivement, les questions LGBT+, sont importantes.
C'est sûr qu'il y a un conflit de génération. C'est sûr qu'il y a un conflit de génération. Maintenant, on peut être tout à fait favorable à la cause, enfin, j'emploie une catégorie très fourre-tout, à la cause homosexuelle, défendre absolument les homosexuels contre les agressions, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques, et pas tomber dans les délires. Si vous voulez, on a un peu l'impression qu'être de gauche aujourd'hui, c'est acquiescer à tous les délires de la gauche. Mais non, il faut être d'une gauche critique qui prend, qui laisse. Et puis c'est pas parce que un jeune sur cinq s'avoue sensible à ces questions-là qu'il faut absolument en faire le centre de notre attention. Maintenant, il s'agit pas de rejeter quiconque. Enfin, j'étais assez étonné parmi les réactions.
Vous qui avez été rejeté, quoi, du coup.
Oui, mais oui, en plus. Non, mais j'étais un peu étonné de recevoir ce week-end l'attaque d'une personne qui lutte d'ailleurs contre les discriminations et les violences faites aux homosexuels et qui demande que moi je sois discriminé. En plus, en me traitant d'extrême droite, sur la base d'une imputation qui est fausse.
Parlez-vous
qui est fausse.
Vous savez pourquoi on vous traite d'extrême droite, monsieur Nolot?
Parce que je ne suis pas de la bonne gauche, voilà.
Non,
ça, j'ai compris.
Pas du tout. Pas du tout. Moi, je vais vous le dire par rapport à ce que vous. Moi, je ne vous connais pas, c'est la première fois que je vous vois. J'avoue ne pas être une experte de votre personne ni de vos interventions. Je suis ça de loué. Quand vous nous dites que vous avez été par amitié au meeting de monsieur Zemmour.
Tu reviens?
C'est quand... Oui, j'y reviens parce que, c'est pour ça. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand vous êtes au premier rang de meeting de monsieur qui lui-même se définit de rejeter tout ce qui est différent de lui-même, quand même l'extrême droite, ce monsieur, voire à l'extrême de l'extrême droite, et que vous refusez de répondre à votre collègue. Moi, je suis de gauche, j'avais pas voté pour Mélenchon qui me dégoûte. Voilà, pourtant je suis de gauche. Et je considère qu'aujourd'hui, Mélenchon fait du mal à la gauche. Et même si dans l'isoloir j'étais seule, même si je suis allée voter blanc, même si. Donc en fait, c'est confidentiel, oui, dans l'isoloir, mais quand on est un personnage public, on peut aussi assumer ses positions. D'un côté, vous dites que vous allez voir M. Zemmour par amitié, et de l'autre, vous refusez de donner. Et donc vous entretenez cette espèce de mystère autour de l'extrême droite.
J'entretiens ma liberté, madame. Oui. Je m'assois où je veux.
Mais bien sûr.
J'ai les amis que je veux.
Mais bien sûr. Mais
je donne les interviews aux journaux. Que je veux.
Mais vous êtes un homme public.
Si j'étais un soutien de Zemmour, je l'aurais dit, je serais monté à la tribune. J'ai été aussi un des invités de la convention des radicaux de gauche. C'est pas pour ça que ça fait de moi un radical de gauche ni un soutien.
Mais vous êtes d'accord avec moi que
c'est incessant.
Je suis bienveillante avec vous pour le coup. Oui. Je vous attaque pas. Je suis assez bienveillante.
Oui,
je vous dis la source.
Mais non.
Je termine ma phrase. En fait, la source de cette ambiguïté, quelque part, vous l'entretenez. Oui. Vous avez raison au nom de votre liberté, mais pour le téléspectateur et l'auditeur lambda,
je crois pas.
Ben si.
Regardez la preuve. Lambda le comprend très bien. Les auditeurs lambda, on a un petit peu marre de ces procès en sorcellerie dès qu'on est un déviant idéologique. Et la déviance idéologique commence vraiment très tôt, je trouve.
Ah, mais vous parlez à quelqu'un qui n'est dans aucun moule, donc ça, je ne peux pas vous reprocher de ne pas être dans ce moule.
On peut inverser le truc en disant c'est aussi la liberté du festival de dire voilà avec qui on veut travailler finalement ou pas, quoi. Tu vois ?
Oui, mais sur quelle base ? Parce qu'ils voulaient travailler avec moi avant, ils m'ont envoyé une lettre très sympathique. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette interview de scandaleux ? Je défends le cinéma, je défends la culture, on peut ou ne pas être d'accord, à mon avis, ça ne suffit pas à m'envoyer au bûcher.
Merci Eric d'être passé voir le GG, merci Eric Nolot. Allez, dans un instant, notre GG 7 et match. Oxfam demande à ce qu'on plafonne le salaire des grands patrons pour ou contre Kauter. Et pour, elle est seule face au reste du monde.
Je demande d'avoir 3 minutes de temps de parole.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC Story. Les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est de 9h à midi. C'est avec vous, bien sûr, au 32-16 pour discuter, pour débattre avec les GG. Aujourd'hui, Charles Consigny, avocat, Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Nous sommes avec Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. C'est l'heure du GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Chez G7 et Match, on va revenir sur l'étude menée par Oxfam, vous savez, qui est une ONG qui mesure les inégalités en France et dans le monde, et qui a remarqué que sur 100 grandes entreprises françaises, les rémunérations des dirigeants y sont en moyenne 97 fois supérieures à ceux de leurs employés. Alors, pour corriger ces écarts qui aujourd'hui sont anormaux, voilà ce que dit Oxfam, il faut bien sûr revaloriser les augmentations de salaire et puis surtout limiter les écarts de rémunération, voire même remettre une fiscalité sur la fortune. Mais bon là, surtout, c'est plafonner les salaires des grands patrons dans le privé. Ils sont déjà capés dans le public, il faut le faire aussi dans le privé. Alors, plafonner les salaires des patrons, oui ou non? Kauter dit oui. Christophe, Charles et Olivier disent non. Vous venez en discuter avec les grandes gueules au 32-16. La parole à Kauter, c'est parti.
Il y a des sujets, mon cher Alain, et les garçons, qui sont tellement évidents que je ne comprenne même pas qu'il faille en parler. Pardon. Quand j'ai pas vu les écarts, je me suis dit, bon, c'est du privé, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils ont le droit de se rémunérer comme ils veulent. Mais quand tu es salarié, surtout dans cette période où on n'arrête pas depuis un an à pleurer sur les salaires des gens, on reçoit des témoignages ici et ailleurs qui disent que les gens n'arrivent plus à survivre de leur salaire lorsqu'ils ont un salaire, je ne comprends pas comment décemment un patron lui-même peut accepter d'être rémunéré 97 fois plus que ses salariés. Voilà, une fois que tu as dit ça, tu as fini le débat en fait. Qu'on ramène des salaires décents au reste des salariés, que les gens puissent vivre décemment.
Un salaire décent ?
C'est pas 1500 euros.
Un salaire décent ? 5 minutes.
Voilà, je vais en prendre deux minutes, rien que pour ça.
C'est pour t'aider.
Non, mais tu n'as pas besoin de m'aider, mon cher. Argumente-toi, tu vois. Non, mais c'est ça qui est hyper chiant. C'est que toujours tu me coupes, toujours je perds mon argumentaire. Tu poses la question après.
Non, mais c'est pas fini.
Un salaire décent, c'est un salaire capable de payer ton loyer, de manger pas des produits à Nutri-Score E, de payer les activités pour tes enfants.
C'est bien de payer son.
Non, c'est avant que ça, je parle pas de salaire décent pour les patrons. Je parle d'un salaire décent pour tes salariés, qui est pas 97 fois de 97 points d'écart entre toi et tes salariés.
C'est le salaire du salarié, c'est pas le salaire du patron.
Tu as rien compris à ce que j'ai dit,
Non,
tu as rien compris.
Oxfam veut réduire en plafonnant, mais tu peux très bien réduire en augmentant, en faisant en sorte que les salariés gagnent plus.
Oui, mais
plus.
Quand tu plafonnes cet argent, l'idée... Mais quand tu plafonnes le salaire des patrons, l'idée, c'est de rémunérer plus tes salariés, qui sont à 97 points de toi, en fait.
Ça fonctionne comme ça.
J'espère que ça fonctionne comme ça.
Tu voudrais les plafonner.
Je l'ai déjà dit 15 000 fois.
Non, mais redis-le, parce que, par exemple, ça te choque ou pas?
Pour les footballeurs...
Capitaine Kylian, tu le plafonnes ou pas?
Je l'ai dit ici, je l'ai dévoilé en deux, Capitaine Kylian.
Je t'écoute pas tous les jours, excuse-moi, vas-y.
Voilà, il faut que tu te renseignes. Donc, non seulement je le plafonne, mais si tu avais été attentif ce matin, je suis même pour qu'on taxe.
Oui, mais tu me réponds pas, tu
le taxes ou pas? Je suis pour qu'on les plafonne et je suis même pour qu'on taxe leur salaire et qu'on redistribue directement au club amateur.
Les salaires de
ils vont rejoindre Benzema alors en Arabie Saoudite.
Mais pareil, mais l'Arabie Saoudite,
ils sont plus là.
Alors je sais pas si tu es au courant, mais je ne suis pas ministre ni résidente de l'Arabie Saoudite, donc moi je m'exprime sur ce qui se passe
mais
dans
les stadiers,
pays.
Toute l'économie, tu l'auras plus.
Ce qui se passe en Arabie Saoudite.
Non mais tu l'auras plus l'économie du stade.
Ce que je te dis, c'est que si tu plafonnes le salaire des footeux, Tu prends le risque qu'il n'y aura plus un bon joueur de foot en France.
Alors, je vous explique. Essayez de trouver des arguments sur le sujet et de ne pas vous éloigner, messieurs, parce que vous êtes tellement nuls que vous allez voir Benzema et l'Arabie Saoudite. Le sujet, c'est les salaires des grands patrons en France.
Ah ben, c'est sûr que les grands patrons ne seront plus en France non plus.
Ben
ça, voilà. C'est évident.
Mais là, on parle des grands patrons en France, des 100 multinationales en France.
Si les plafonnes, les grands patrons ne seront plus en France. Ils iront se faire payer ailleurs.
Ils iront se faire payer ailleurs. Tant pis.
On restera entre pauvres.
On a dit ça. Non, on ne restera pas entre pauvres, parce qu'à un moment donné, la décence aussi, mon pauvre. Tu sais ce que c'est, la décence? On peut le conjuguer au présent? On peut le conjuguer à tous les gens qui nous regardent aujourd'hui?
J'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais plafonner. J'ai toujours pas compris pourquoi tu voulais plafonner les salaires des grands patrons. Je comprends que tu trouves que les salaires ne sont pas assez payés.
Je veux qu'on plafonne les salaires des grands patrons et que la différence salariale, s'ils sont payés, j'ai n'importe quoi, 120 000 euros par an, et qu'on ne les paye plus que 60 000, les 60 000 euros soient redistribués aux salariés.
Pourquoi, à ton avis, sont-ils payés 120 000 euros?
Je ne sais pas. Argumente. Arrête de me poser des questions.
Pourquoi?
On n'est pas chez les flics, là. Argumente.
Pourquoi? À ton avis, c'est un salaire qui tombe du ciel?
Parce qu'ils se gavent, parce qu'on presse les salariés et que, voilà, les grands patrons se gavent aujourd'hui sur le dos des salariés et qu'aujourd'hui, la rémunération n'est pas juste. Et qu'il n'y a pas de redistribution de richesses. Donc arrête de me poser des questions et donne-moi des arguments.
Non, mais si je peux apporter une parole, ça, j'ai mesuré dans cette émission.
Bien sûr, Charles.
Je pense que il y a eu un excès ces derniers temps, en particulier sous ce jeune président des riches, de gavage. En effet, je pense qu'il y a un petit milieu parisien qui se gave les uns les autres. Vous avez le phénomène des conseils d'administration où les uns siègent dans le conseil d'administration de l'autre et ce petit monde se vote se décerne des rémunérations qui en effet sont décorrélées de des notions de
qui existe depuis longtemps, hein.
Élémentaires. J'ai vu que par exemple le patron de Stellantis, monsieur Tavares, je crois, avait toutes les peines du monde à justifier un salaire qui devenait abracadabrantesque. Donc ils ont une responsabilité aussi dans le fait que c'est pour ça que je serais mesuré, c'est que je suis malgré tout évidemment contre la proposition de Cécile Duflot, qui est quelqu'un d'extrêmement dangereux, par ailleurs, et en soi, qui devrait être assigné à résidence avec les lois
antiterroristes.
Enfin, je veux dire, non, j'exagère un peu, mais je dis ça parce que des militants écolos avaient été assignés à résidence sur le fondement des lois antiterroristes. Je pense que ils raniment les vieilles lunes françaises, les vieilles passions jalouses françaises par leur comportement indécent. Et donc j'estime qu'il est de la responsabilité des patrons se décider des rémunérations qui sont en corrélation avec les salaires dans leur entreprise. Et je suis même, moi, favorable à ce que les salariés soient représentés davantage au sein des conseils d'administration, qu'ils aient des voix délibératives au sein de ces conseils d'administration pour qu'ils puissent mettre sur la table de ces conseils d'administration qui sont un entre-soi invraisemblable la question de la rémunération des salariés. Puisque là où Cauter a une part de vrai dans ce qu'elle dit, c'est que, en effet, beaucoup, beaucoup d'entreprises pressent pousse à la baisse sur les salaires le plus possible, comprime ce qui est perçu uniquement comme un coût. Et moi, je pense enfin, et là, c'est le jeune entrepreneur, entre guillemets, que je suis, qui parle, et collaborateur de cabinet que j'ai été avant, je pense qu'il y a une mauvaise ambiance dans une boîte si les gens ne sont pas payés à la hauteur du travail qu'ils font. Et donc, c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus en France et qu'il y a un problème, je termine par là, je constate de plus en plus un vrai problème d'entre-soi, d'une certaine classe qui se vit comme au-dessus du monde et qui a envie d'y rester. Et je trouve qu'il faut que ça circule plus.
Et je t'avoue, mon cher Charles, que j'ai été très étonnée de t'avoir contre moi, parce qu'effectivement, exactement, parce que
Mais jamais je voterai un plafonnement des salaires.
Oui, mais à la fois, tu ne veux pas un plafonnement des salaires, et à la fois, tu dis exactement ce que je dis, c'est-à-dire qu'un salarié, pour qu'il soit motivé, ça passe aussi par la valorisation salariale. C'est obligatoire, je veux dire, si tu vas travailler,
tu payes 800 euros. Que les salariés total soient malheureux.
Manière d'aborder le débat. Je pense que Cécile Duflot est habile. On l'a vu malheureusement parce que ça peut se retourner contre tout le monde. Et c'est pas une bonne manière d'aborder le débat parce que ça rouvre des jalousies et tout ça. Et je pense pas que ça soit la manière de d'amener les choses et d'amener de la sagesse dans les débats. Cela dit, c'est vrai que quand j'écoute Cécile Duflot, je l'ai vu et j'en parlais tout à l'heure pendant la pause publicitaire. Regardez aujourd'hui, c'est compliqué pour qui ? C'est compliqué. Vous prenez un locataire aujourd'hui, il va louer un petit studio. Il y a les 40 pages, tu crois qu'il les lit, les 40 pages du bail, Cauter ? C'est comme quand tu prends ton contrat chez SNB.
Mais je sais pas de quel bail tu parles, moi j'ai jamais vu un bail à 40 pages.
C'est la même méthode, c'est petit à petit que si tu veux. On joue sur le débat, en attaquant par un angle. Là, on attaque par l'angle de la jalousie, si tu veux. On dit, ouais, les grands patrons se gavent. Voilà, le verbe se gaver, déjà, toi, se gaver.
Oui, se gaver.
On discute. Et je veux dire, Stellantis, il y a un conseil d'administration, les gens, ils
vont. Oui,
on joue sur l'émotion.
Moi, ce qui m'insupporte, c'est que vous faites un procès aux Français, dont je fais partie, et vous nous dites qu'on est jaloux des grands patrons.
C'est pas ce que
alors,
je t'ai
dit. Nous ne sommes pas jaloux des grands patrons. Nous sommes la valeur ajoutée aux grands patrons sans lesquels ils n'auront pas une centime. D'accord? Où l'argent ne travaillerait pas et ils gagneraient rien. Donc les Français ne sont pas jaloux, les garçons. Les Français souffrent. Et les Français en ont marre d'être pressés.
Mais c'est pas à cause des grands
d'être
patrons.
D'être pressés. Oui, c'est à cause. Moi, je demanderais pas ça à une PME, ni à une TPE, ni à un artisan. Là, on parle des grands patrons. Je vais terminer mon propos. J'en ai marre que tu me coupes. Tu ne sais pas. Je ne suis pas la plante verte de l'émission. C'est pas possible.
Les grands patrons.
Vous trompez.
Non, mais c'est pas les grands patrons, ouais, mais on peut panier. Mais non, on peut panier. Il faut
tu
pas,
dis quelque chose, en fait, qui est évident, qui est factuel.
Il faut être lucide. Il y a un entre-soi en France qui est extrêmement fort entre une certaine énarchie, entre certains grands patrons qui appartiennent à une sorte de caste à laquelle ils sont contents d'appartenir.
Ils
d'ailleurs,
ont des conseils d'administration,
ils
c'est
se bon battent pour appartenir.
C'est validé par des conseils d'administration.
Oui, il y a qui dans les
peut-être que nous, on devrait avoir un truc, les salariés devraient être présents.
Il y a des actionnaires dans les conseils contents de gagner. Il y a plein d'argent et qui, grâce à ça, paye très cher à Pouyanné dans les Tavares.
Il y a qui dans les conseils grâce à nous.
Qui dans les conseils d'administration ? Il y a qui ?
Je pense qu'il
y a désormais des représentants des salariés.
Oui, mais
et souvent, ces représentants
des
salariés.
Non, mais
il
ne
faut pas être du plaisant.
Et souvent, ils valident ses salaires.
D'administration, on peut parler les mêmes parents.
Mais tu vois, Charles, tu ne crois pas que pour ouvrir le débat, on ferait mieux de parler, par exemple, de la participation, comme a fait De Gaulle après la guerre.
Oui, mais des trucs simples. Mais on pourrait l'attaquer comme ça. Ils ont du mal à y venir. Et si tu veux, moi, je vois ce qui se passe. Regarde ces clubs
c'est
qui s'appellent
vrai,
le siècle, l'Association française d'entreprises privées, etc. Il y avait un portrait là dans le monde de Barbizet qui prend la tête de ce truc, etc. C'est un entre-soi incroyable.
C'est toujours les mêmes pour
et les hommes politiques viennent tapiner auprès de ces gens-là parce que ces gens-là, ont beaucoup de pouvoir. Si, parce que la question, c'est la question des salaires et notamment ceux des salariés. Et
donc, on est le pays.
Moi, je suis désolé de vous dire, il faut que ces gens-là arrêtent de venir chouiner quand ils voient les gilets jaunes, qui
alors,
viennent
pause.
Protester dans
ceux
la rue.
Ceux qui chouinent, c'est pas eux, c'est
une
sécuritaire.
Responsabilité là-dedans.
Pause.
C'est toi qui chouine et qui me coupe la parole et qui a zéro argument, mon cher.
Faut-il plafonner le salaire des patrons, oui ou non ? Envoyez la consultation, s'il vous plaît, qu'on voit où on en est à la mi-temps. C'est un oui 56-44. Oui, 56%, 44%. Dans un instant, dans le Finistère, nous serons avec Christophe, profession libérale. Dans le Gers aussi, avec Eric, qui est commercial. Et on verra quel camp ils ont choisi.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Allez, on discute là avec pour ne rien vous cacher là avec l'ami Christophe Lemerson. Là, on parlait Saint-Nectaire et bonne bouffe du côté de du Puy-de-Dôme.
Ouais, c'est vrai qu'on peut venir en Auvergne, on mange bien et vous vous régalez. Toi, t'es venu à la Bourboule, c'est une bonne idée. Tu vas y aller.
J'embrasse Fanny Agostini.
Ouais, embrasse là et embrasse tous les Bourbouliens. Mais il y a une bonne table et il y a des très bonnes tables à Clermont et en Auvergne en particulier. Mais c'est vrai qu'à Clermont et dans la autour de Clermont, pas loin, tu fais 20 bandes, tu peux vraiment manger des bonnes viandes.
Pas du tout l'accent auvergnat.
Ouais, ben tout le monde me dit je l'ai pourtant l'accent auvergnat.
Ils sont taquins. Est-ce que t'es radin comme tous les Auvergnats ou pas ?
Il y en a qui le disent.
Parce que tout à l'heure, on t'a demandé de nous payer un café, t'as pas voulu.
Tu sais pourquoi ? Parce que j'ai regardé les fonciers, donc je commence à préparer. Parce que quand je vois ce qu'ils nous prévoient sur les taxes foncières, je commence à faire des économies.
Toujours en train de pleurer.
J'ai plus de larmes, Kaouter.
Et même pas, il paye un café.
Mais non, c'est les grands patrons qui se gavent. Tu l'as dit tout à l'heure.
On va revenir à notre discussion avec Christophe du Finistère. Bonjour Christophe.
C'est le grand patron de l'immobilier.
Alors, on plafonne ou pas ?
Alors, c'est vrai qu'au répondeur, moi j'ai au standard, au départ je lui ai dit oui dans le principe de plutôt éviter cette cascade de salaires qui augmente. Ouais. Plafonner, alors les gens, c'est leur entreprise, c'est quand même, quand c'est du privé, c'est quand même compliqué de vouloir plafonner une personne, mais je trouve inadmissible effectivement, moi dans mes vagues souvenirs que j'avais des cours d'histoire qui datent donc depuis de quelques dizaines d'années, j'avais retenu que c'était Ford qui avait dit qu'un patron ne devait pas gagner plus de 20 fois ce que gagnait un ouvrier. Mmh. Aujourd'hui, on est, alors vous dites 100, c'est une moyenne.
97 fois.
Mais voilà, mais on est, je pense, ça c'est une moyenne, et c'est une moyenne, je dirais presque officielle. Je pense qu'officieusement, ça doit être bien pire que ça. Et puis, si on va dans des extrêmes, si on prend des grands patrons dans des extrêmes, quand on voit ce que peuvent gagner leurs employés et ce que eux sont capables de faire avec leur fortune, c'est-à-dire des choses qui, alors leur plaisir peut-être, mais cette idée de vouloir partir dans l'espace ou autre, enfin, il y a une démesure complète qu'on peut pas. pas forcément tolérer. Je pense qu'il doit y avoir un juste retour de la richesse qu'ils ont, et ils doivent en avoir, c'est logique, mais un juste retour
mais
de,
ça s'appelle
de ceux
l'impôt.
Qui leur ont fourni.
Christophe, ça s'appelle l'impôt. En France, on a un système qui est quand même assez bien fait. On a le système redistributif le plus généreux. Je vais donner des chiffres qui sont plus précis que ceux d'Oxfam, parce que la méthodologie d'Oxfam, elle laisse à désirer. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont tous les économistes. Mais en 2020, la redistribution atténue les inégalités. Elle augmente de 74% le niveau de vie moyen des 20% de personnes les plus modestes et diminue de 21% parallèlement celui des 20% les plus aisés. Donc grâce à notre système redistributif, fait d'impôts et ensuite d'aides, allocations, etc.
Ils ne payent pas autant d'impôts que
nous.
Mais oui, mais c'est ça. Oui, mais
la redistribution pour faire par des taxes ou des impôts.
Bah si.
On passe toujours que par des taxes, des impôts.
Mais c'est la meilleure redistribution possible, parce qu'elle est juste.
Des impôts ne fonctionnent que comme ça.
Mais parce qu'elle est juste.
On est en train de se faire une société d'assistés parce qu'on ne fait que aider les gens à droite et à gauche.
Merci.
Ah bon, alors vous êtes libéral alors, donc je comprends plus, parce que le principe de la redistribution.
Mais non, la
redistribution. Si vous êtes libéral, vous laissez les salaires des patrons, vous ne les plafonnez pas.
Les patrons qui devraient justement dire, bon ben voilà, mes ouvriers m'ont permis de gagner une certaine somme, c'est peut-être qu'ils ne sont pas, donc je dois pouvoir les rémunérer, moi, directement,
les patrons ne le font pas. Vous pensez que les patrons ne le font pas? Vous pensez pas que l'intérêt d'un patron, c'est d'avoir un employé qui est bien dans ses pompes, qui est content d'aller travailler le matin?
Il y a 97 points d'écart.
C'est pas le sentiment que ça donne. On parle souvent d'ailleurs de gel de salaire, de gel de ceci, de faire des efforts. On nous demande toujours de faire des efforts, mais pas écoutez, vous avez déjà fait des efforts, puisque vous nous avez permis de nous enrichir ostensiblement, et bien, à ce moment-là, on
vous parle de quoi, en fait? Vous parlez de qui?
Je parle des grands patrons qui parleraient à leurs salariés, qui les augmenteraient de manière à ne pas avoir 100 fois plus de salaire.
Interroger les salariés de Total, j'ai pas l'impression que ce soit les plus malheureux.
Oui, mais alors, Christophe, par exemple,
l'exemple d'Amazon, moi, j'ai de la famille qui travaillait chez Amazon, quand vous voyez combien ils peuvent être payés, vous vous dites que c'est pas possible que ces gens-là soient à peine au SMIC et que à côté de ça, on ait ce fameux grand patron qui a
pour le coup, il est pas français là.
Qui est extrêmement non mais c'est pas forcément que français.
Ah bah oui, mais là
on parle de Total, déjà ils gagnent pas 5000 euros tous, faut arrêter de fantasmer aussi.
Voilà,
hein.
Je vous ai parlé de Ford, là, je vous ai donné l'exemple de Ford, Ford n'était pas français.
Non mais là on parle du plafonner les salaires des grands patrons français.
Oui, j'entends bien. Je réponds juste que c'est quelque chose qui devrait se généraliser dans l'esprit. Vous dites, vous pensez que les patrons n'y pensent pas? Je vous réponds non. Les patrons n'y pensent pas. Ils ne pensent pas.
Je dis que l'impôt, c'est la meilleure façon de redistribuer les richesses.
Pas du tout. Toujours des impôts.
Tous les gens veulent être payés mieux. Ils en ont marre des aides et des chèques services.
Voilà, on veut pas des aides.
Impossible ça.
Non, mais c'est pas une aide. Les impôts, c'est justement ça permet de redistribuer les richesses. On n'a pas trouvé meilleure
solution. Tu
payes les services publics. Alors attendez, Christophe, parce qu'on va demander un autre point de vue, celui d'Éric qui nous appelle dans le Gers. Bonjour Éric.
Bonjour.
Et vous, Éric, dans quel camp êtes-vous? On plafonne, oui ou non?
Non, pourquoi? Parce que moi j'estime qu'aujourd'hui une entreprise, déjà que le peu d'entreprises qui restent en France, quand on voit tous les grands groupes qui se sont barrés, comme Alstom, comme qui encore, j'en passe et j'en laisse, quand vous voyez aujourd'hui que la Chine est prête à sortir son propre Airbus, enfin c'est une copie conforme de Airbus, donc ce qu'on fait, il fait qu'aujourd'hui tous les grands groupes et notre intelligence est partie, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le peu de groupes qui restent, ce sont de petits groupes qui sont obligés de reprendre. Parce que moi, je travaille dans le secteur de tout ce qui est enseigne et tout ça. Et je le vois aujourd'hui, tous ces grands groupes, ces grands groupes qui essaient de fusionner avec d'autres petits groupes pour essayer de faire une grosse entreprise, on va dire. Moi, je vois que ces mecs-là sont taxés à la hauteur de 54%. Vous entendez, sur un chiffre d'affaires par an. Aujourd'hui, on pleure parce que les salaires ne sont plus là, on pleure parce que on n'arrive plus à survivre et tout ça. Mais tout ça, c'est faute à qui, faute à quoi? Je suis ni gilet jaune, ni ce que vous voulez. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut peut-être se responsabiliser aussi, se prendre en charge. Moi, aujourd'hui, je suis bien dans ma boîte. Demain, le jour où je n'y suis pas bien, je ferai autre chose. D'accord. À un moment donné, il faut que les gens se responsabilisent aussi. Après, quand on voit les taxes d'habitation et tout ce que j'entends dire sur les taxes foncières et tout ça, mais c'est faute à qui, faute à quoi aussi. C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est aujourd'hui en France, je suis désolé, on n'a plus le droit de gagner des sous. Alors moi, je dis parce que
au contraire, on dit le contraire.
Moi, je dis, quand j'entends parler, comme l'auditeur avant moi, qui parlait du grand patron d'Amazon et tout ça, avant de parler d'Amazon et de qui que ce soit, de Google et compagnie, regardons d'abord la France, regardons d'abord notre pays, travaillons sur ce qu'on peut faire et tout, mais aujourd'hui, avec toutes les contraintes de l'Europe, je dis bien toutes les contraintes de l'Europe, eh bien, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on va être tous pareils, on va être tous au même piédestal et on ne pourra plus rien faire. Voilà.
Monsieur, je ne sais pas dans quelle planète vous vivez, mais en fait, nous n'avons pas notre intelligence qui nous quitte, mais les autres peuples sont aussi intelligents et les petites patries d'hier deviennent de grandes patries aujourd'hui. Et je vous rappelle à titre indicatif que nos hôpitaux sont pleins de médecins, de chirurgiens, de cardiologues qui viennent de Tunisie, qui viennent du Ghana, qui viennent de partout. Donc nous n'avons pas l'exclusivité de l'intelligence et du savoir-faire. D'autres sont bons aussi, d'autres viennent renforcer nos services publics et nos institutions.
Je dis pas le contraire.
Et voilà. Et ailleurs, ils ont des intelligences aussi qui se développent, monsieur.
Sur le milieu hôpital, d'accord? Pourquoi? Parce que qui c'est qui le finance aujourd'hui, l'hôpital? Ce sont bien les entreprises privées aussi.
Mais monsieur, ce sont aussi tous les Français qui payent des impôts, monsieur.
Aussi,
vous savez, le SDF qui paye sa TVA à 20% quand il va acheter sa bière ou son litre de vin, il paye pareil.
5-5. Allez, terminé.
Peu importe, la TVA,
merci,
il la paye pareil, le SDF.
Christophe,
autant que le grand patron.
Merci Eric, vous avez terminé notre discussion. Plafonner le salaire des grands des patrons. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Allez, le résultat final, s'il vous plaît. On était à 56, ça n'a pas bougé en fait. 54-46.
Il y a un point.
54-46, c'est Cavoutère qui l'a
grâce à moi qui est supporté des convictions.
Mon cher Christophe Demerson, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Bon retour du côté du Puy-de-Dôme.
Merci.
Bon retour du côté de la Bourboule.
Ouais, merci.
Un de ces jours.
Région.
C'est loin là-bas, non?
On y va.
C'est loin.
TER, c'est loin. Oui. Ça peut mettre.
En calèche. En calèche.
Plusieurs jours de voyage.
Estelle Denis nous rejoint, ma chère Estelle. De retour d'Angers, c'était bien Angers.
Ah, c'était top. Mais je suis ravie de rencontrer Christophe Demerson, qui est notre invité quasiment chaque semaine dans Estelle Midi. Donc c'est formidable.
Estelle.
Bonjour Christophe. Écoutez Alain, écoutez les GG. Nous allons débattre autour de cette décision de justice ce matin. 4 adolescents reconnus coupables de harcèlement, mais pas du suicide du jeune Lucas. Vous savez, c'est ce jeune collégien qui s'était donné à mort en janvier dernier. La justice est-elle trop laxiste? On attend vos commentaires au 32-16. On parlera également des retours des vétérans de la télé. Michel Drucker, 80 ans. Thierry Ardisson, 74 ans.
Il viendra dans les grandes gueules, Thierry Ardisson, d'ailleurs, prochainement.
Très bien. Écoutez, c'est sur France 3 et France 2. On se demande, nous, si le service public doit laisser la place aux jeunes plutôt que de reprendre des...
Mais on est vieux anciens. À partir de quel âge?
Écoutez, pour le service public,
je suis tranquille.
Mais normalement, 65 ans...
Ah oui, c'est plafonné.
C'est finito, comme dirait Emmanuel Macron. Et là, 80 ans. Bon. Et puis, des parents d'élèves qui se mobilisent contre le projet d'un McDo en face d'un lycée. Est-ce qu'il faut interdire les fast-food aux abords des établissements scolaire?
Je suis complètement pour l'interdiction.
Mais oui, mais moi aussi. Moi aussi, mais ça ne va pas être simple. Enfin, en tout cas, ce sera notre débat de
plein. J'aurais aimé que le fast-food soit à l'intérieur du lycée.
Ah, mais moi aussi, j'aurais préféré. Et si les cantines nous proposaient quelque chose d'un peu meilleur?
Un bon burger.
Allez, 32-16 pour réagir avec Estelle. Et moi, je vous dis à demain 9h.